France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Dans le Val-de-Marne, département fil rouge de la semaine, je ne vais pas vous présenter un projet ou une initiative en cours, mais une action achevée qui aura tout de même été menée durant 6 années par les membres de l'association L'Art Sacré à Vincennes, soit une centaine de bénévoles qui ont fabriqué eux-mêmes les nouveaux vitraux de l'église Notre-Dame. Le collectif se propose désormais de former d'autres groupes de bénévoles à cet art du vitrail. Nous serons ensuite donc à Pau pour parler gastronomie avec le chef David Ducassou, déjà promoteur de la bistronomie, manger bien, pas cher, dans un esprit décomplexé de bistrot. David lance un nouveau concept donc de fastronomie, fini l'attente des plats, en un clic, le pot-au-feu arrive dans votre assiette. Explication dans la deuxième partie de ces carnets.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Dominique Hérault, bonjour.
Oui, bonjour Philippe.
C'est une drôle d'aventure que vous avez vécue depuis 2015, vous qui avez fédéré des bénévoles pour fabriquer les nouveaux vitraux de l'église Notre-Dame. Alors pour ce faire, juste avant votre retraite, vous êtes allé au Centre international du vitrail à Chartres. Vous aviez déjà un objectif en tête ?
Alors, je suis un petit peu manuel. Enfin, j'ai une formation d'ingénieur en électronique, mais j'avais passé un CAP d'ébéniste. J'ai toujours aimé les vitraux, notamment bon, dans les églises, puisque c'est surtout là qu'on les voit, par l'ambiance que ça donne avec les verres colorés et puis les thèmes aussi. Donc j'aime bien les vitraux modernes. Et là, je trouve que c'est un petit peu, ça donne une ambiance un peu comme dans la musique dans un lieu, ça vous transporte. Donc c'est ça qui me plaisait dans les vitraux. J'avais envie d'en réaliser.
Techniquement, ça me paraît très compliqué parce que c'est une mosaïque de verre de différentes couleurs, on le sait, avec un assemblage au plomb.
Alors, je n'aurais jamais fait ça sans avoir suivi un stage au Centre international du vitrail à Chartres avec des gens formidables. Et je me suis aperçu qu'en une semaine, des gens qui... on était une douzaine, jamais personne n'avait fait de vitraux dans le groupe, et au bout d'une semaine, eh bien, on avait réalisé un vitrail de 50 cm par 50 cm. Voilà. Et donc je me suis dit, ben, si j'y suis arrivé comme ça, ben, je vais appliquer la formation et essayer avec d'autres de faire cela.
Avec votre association, vous avez réalisé des stages à Vincennes.
Alors, c'est moi qui ai un petit peu fait le professeur, avec les premiers groupes. Et puis, progressivement, j'ai formé 25 personnes. Et puis, dans ces 25 personnes, je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui étaient très doués aussi et qui sont devenus avec moi formateurs. Et donc, nous avons constitué... et un groupe d'artisans dont certains étaient doués, d'autres moins. Mais finalement, on acceptait tout le monde parce que il y a des tâches pour tout le monde dans cette fabrication de vitraux. Des tâches plus simples que d'autres. Et voilà, on a réussi à fédérer un groupe de plus de 100 personnes, 120 personnes.
Et vous avez réalisé ensemble 34 vitraux.
Oui, c'est ça, 34. Alors il y en a un qui est très grand, qui fait 4,50 m par 3,50 m. Et puis, il y en a qui sont plus petits, voilà. Alors, où on a eu beaucoup de chance, c'est que j'ai travaillé avec une amie artiste qui a conçu la chose, les vitraux. Les 120 personnes, c'est pas une création... Enfin, c'est une imagination d'une artiste et une réalisation collective d'un groupe.
Quelle image vous avez choisie ? Est-ce qu'on est dans l'abstraction, dans la figuration ?
Alors... je dirais que c'est un petit peu proche de Chagall dans la facture. C'est un thème autour de l'eau. Hein. C'est des thèmes bibliques, des thèmes de chrétiens. Mais il y a aussi toute une chapelle autour de femmes docteurs de l'Église, notamment des Thérèses. Donc c'est des figures féminines. Hildegarde de Bingen, Catherine de Sienne, et puis Mère Teresa également, puisque voilà, c'était une chapelle dédié aux Thérèses.
Et aujourd'hui, donc, tout est réalisé. Que devenez-vous ?
Alors, tout est réalisé. Certains me disent mais on aimerait bien continuer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, etc. Ben oui, je dis. l'Église ne peut pas en contenir d'autres. Donc, nous sommes prêts à, nous, associations, à aider d'autres groupes qui se réunissent, qui pourraient se réunir à appliquer la même chose, et parce que le patrimoine français a beaucoup de vitraux, mais il y a aussi des tas d'édifices qui en manquent, avec un petit peu des trous béants.
Donc votre prochaine mission sera de former d'autres groupes de personnes?
De les aider à démarrer, à leur indiquer un petit peu comment on peut procéder, l'importance du choix de l'artiste, et puis il y a aussi la question du financement. Nous l'avons résolu assez facilement en faisant payer les stagiaires, pas très cher, hein, 150 euros.
Oui.
Et puis nous avons eu des dons de personnes qui étaient prêtes à contribuer au patrimoine.
Formidable.
Mais globalement, ça n'a pas coûté très cher par rapport à une sous-traitance complète des entreprises.
La belle histoire des vitraux de l'église Notre-Dame à Vincennes avec l'association présidée par Dominique Hérault, l'association pour le développement de l'art sacré à Vincennes. Il y a une adresse mail que vous allez trouver à nos pages d'émission si vous voulez entrer en contact avec l'association. Merci Dominique.
Alors, il y a juste, vous pouvez aussi consulter sur YouTube, en tapant Google Chantier Vitrail Vincennes. Vous avez des petits films très bien faits où vous verrez un petit peu le type de réalisation.
D'accord. Bon, on va aller visionner ces enregistrements et ces vidéos sur YouTube. Merci Dominique.
Voilà. Au revoir Philippe. Merci.
France Inter, carnet de campagne.
Encore une nouvelle entreprise du local, de l'artisanal et de l'innovation grâce au courrier envoyé par Domitille. Notre correspondante, qui se prépare très prochainement et à temps plein sa nouvelle activité, nous a envoyé quelques pistes pour comprendre sa démarche. Il y a d'abord la petite histoire de Domitille, comme elle l'écrit, avec sa mère qui lui confectionnait des sacs pour le goûter durant son enfance. La machine à coudre de la maison inspire l'adolescent qui commence à créer des sacs à main en tissu pour ses copines. Suivront des années de création de costumes pour le théâtre, avant un séjour en Argentine au cours duquel elle apprend à travailler le cuir. De retour en France, à Toulouse, sa ville natale, Domitille prépare sa création d'activité en donnant une seconde vie à des matières à revaloriser. Première ressource à laquelle elle songe grâce à l'industrie aéronautique, les cuirs des sièges d'avion. Ainsi est né l'atelier de maroquinerie, l'atelier Meta, qui conçoit des articles de voyage en cuir issus donc des déchets d'entreprise aéronautique, entre autres du bassin toulousain. Domitille a lancé sa première gamme d'articles, la gamme Metaero, dont des sacs à dos, des protège-passeport, des sets de bureau. Et comme sa petite entreprise est en cours de démarrage, elle bénéficie de soutien de partenaires comme la Maison de l'Initiative, qui est une coopérative d'activité et d'emploi dédiée à l'économie sociale et solidaire et à l'entrepreneuriat féminin. Ses premiers articles sont visibles sur le site de son atelier, donc c'est atelier-meta.fr. David Ducassou, bonjour.
Bonjour.
On est heureux de saluer un chef béarnais connu. Fils spirituel d'Yves Candebordes, on peut le dire comme cela, et vous êtes surtout un des chefs de file de ce qu'on appelle la bistronomie. Mais aujourd'hui, on va un peu plus loin, parce que vous défendez un nouveau concept, c'est la fastronomie.
Oui, c'est un nouveau modèle que j'ai décidé de mettre sur les rails, en fait. Je constate un patrimoine de restauration française où il y a de plus en plus de fast-food autour de nous, voilà, de plus en plus présent sur le territoire français. Alors il y a une gastronomie française qui se porte très très bien. On a des grands chefs, on a des jeunes chefs, on a plein de restaurants où voilà, on sent bien que derrière il y a des mains qui s'amusent et qui ont envie de faire plaisir à une clientèle. Voilà, tout ça, c'est un coût, c'est pas donné malheureusement à tout le monde. Et aujourd'hui, je constate surtout que la restauration traditionnelle servie dans des petits restaurants, voilà, elle disparaît à petit feu depuis une bonne trentaine d'années. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec la hausse des prix, avec des problèmes de personnel, tout ça, on arrive aussi maintenant à des tarifs, en 30 ans, on arrive à des tarifs de gastronomie. Donc, un nouveau modèle, donc, et oui, en effet, donc du coup, après, on a un panel de fast-food, de street-food, de choses comme ça, où toutes les cuisines du monde sont représentées, sauf la sacro-sainte cuisine française des Bocuse et surtout de nos grand-mères.
Ouais. Voilà. Mais le produit type du fast-food, David, c'est le burger. Est-ce qu'on peut faire un burger au pot-au-feu? C'est pas possible, ça.
Non, mais il est hors de question de faire du burger. C'est pas notre culture, c'est pas notre truc. Voilà, nous, un pot-au-feu, voilà, il faut juste présenter présenter le pot-au-feu autrement. Ça n'a jamais, jamais coûté plus cher de mettre 150 grammes de steak de viande de première catégorie pour faire un steak haché que des bas morceaux de troisième catégorie pour faire du pot-au-feu. Ou sinon, on marche sur la tête.
Hein. Oui.
Voilà. Donc, l'idée, c'est de servir du pot-au-feu, c'est de servir une blanquette de veau, c'est de servir des gras doubles, c'est de servir des petits cochons vinaigrettes, servir de la cuisine française, voilà, mais de façon plus contemporaine, j'ai envie de dire. Et donc, c'est d'amener la gastronomie française dans ces codes-là. Voilà, aujourd'hui, on n'a jamais commandé un pot-au-feu sur une borne de commande. Voilà, mais il va falloir s'y mettre.
Oui. Alors, ça va être beaucoup de la cuisine à emporter ?
Ça peut être sur place et à emporter, voilà. On aime le contact humain, on aime servir les gens, on aime être au service des gens. Et c'est vrai qu'on aime les gens, on a envie de les recevoir à table comme on reçoit des amis. La gastronomie, c'était réservé au grand hôtel de luxe de Paris avec une clientèle mondiale. Et finalement, nos copains de rugby ou nos copains de copains d'école, de collège, on pouvait pas les recevoir. C'était pas pour eux, c'était une ligne à pas franchir. Grâce à la gastronomie, on a pu amorcer tout ça. Voilà. Aujourd'hui, je constate que la gastronomie, les bons petits restaurants gastronomiques de quartier, si vous n'avez pas un billet de 60 euros, vous ne pouvez pas manger. Donc, il faut remédier à ça. Et voilà, c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure.
Et donc, le premier établissement s'appelle HUM ?
Alors, ce n'est pas le premier établissement. C'est la structure qui s'appelle HUM, exactement.
HUM.
H-U-M, voilà.
Oui.
HUM, parce que HUM, ça a des connotations gasconnes. Et voilà, le projet se lance dans la région paloise. Voilà, HUM, en béarnais, en occitan, ça veut dire fumée. Voilà, et la cuisine française, elle fume, elle glotte, voilà, il y a de la fumée. Et à une, allez vite. Donc, voilà. Le projet de gastronomie, c'est de la cuisine française traditionnelle. On va s'amuser gastronomiquement en parlant, en rajoutant des petites choses. Mais la seule différence entre la traditionnelle et la gastronomie, c'est que la traditionnelle, ben, vous vous asseyez à table et vous avez votre plat au mieux un quart d'heure après, sinon une demi-heure. La gastronomie, vous commandez sur des écrans dynamiques et trois minutes après, vous êtes servi, comme on vous sert un burger dans un fast-food.
Et ça va se présenter sous forme de franchise ?
Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, toutes les enseignes, on s'appelle même tous les restaurants. Voilà, on a un projet sur Pau, on s'est mis déjà dans un projet de structure avec une cuisine, on a repris une cuisine de cantine scolaire qui fait 500 mètres carrés et cette cuisine doit pouvoir accueillir 4 ou 5 franchisés sur la même zone, sur la même agglomération. On est très attaché à faire du circuit court, à respecter la planète, à respecter tout ce qu'il y a autour de nous. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir une cuisine centrale avec 4 ou 5 points de vente à moins de 20 minutes de cette cuisine centrale. Voilà. Sur une agglomération comme Pau, il y a 300 000 habitants, on a la prétention, j'ai presque envie de dire, de servir 800 repas.
On a noté, alors ça s'appelle HUM, H-U-M,
ouais.
Et il y a une plateforme Ulule aussi, HUM, trait d'union, Fastronomie, on va retenir ce concept, la Fastronomie avec David Ducassou.
Merci beaucoup.
Merci David. Un dernier message envoyé par Christophe à Lincel dans le Nord. Christophe est membre du club de badminton BWM59. Ne vous trompez pas dans l'ordre des lettres. Le club de Vambrechy Market. Il accueille depuis quelques semaines l'équipe nationale ukrainienne en e-sport de badminton. 4 joueurs et joueuses, entraîneurs, médecins, kinésithérapeutes et 3 enfants qui sont hébergés par la mairie et aidé par les associations locales. Le club a mis ses infrastructures à disposition de l'équipe, évidemment, qui prépare une compétition internationale en juin. Christophe et les membres du club cherchent des personnes pour participer au transport des équipes entre le lieu d'hébergement et les salles d'entraînement, ainsi que des soutiens financiers pour acheter des volants et des raquettes. Ce sont des pros, hein. Ils utilisent un cordage par semaine. Ça pète très vite. BWM59.fr pour l'adresse.